podcast de Radio Vatican.
Il y a tout juste 10 ans, le 5 août 2007, le cardinal Jean-Marie Lustiger s'éteignait à l'âge de 80 ans. Né à Paris le 17 septembre 1926 de parents juifs d'origine polonaise, Aaron Lustiger sera baptisé en 1940, puis il entrera au séminaire des Carmes. Ordonné en 1954, jeune curé à la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal à Paris, il se fera remarquer par la qualité de ses homélies. Prêtre du diocèse de Paris lui-même depuis 2007, le père Jean-Baptiste Arnaud a analysé de manière très complète les homélies prononcées par Jean-Marie Lustiger lors des 10 premières années de sa charge en tant qu'archevêque de Paris entre 1981 et 1991. Il étudia également les enregistrements de ses interventions archivées à l'Institut Jean-Marie Lustiger à Paris. Le père Jean-Baptiste Arnaud est d'ailleurs un de ses membres du conseil scientifique. Il revient pour nous sur la conception qu'avait le cardinal Lustiger de l'homélie.
En tout cas, ce qu'il voulait montrer, c'est que vraiment l'homélie est un acte liturgique dans la messe. C'est ça sa spécificité particulière qui à la fois lui donne toute sa force, parce que c'est une parole de Dieu, c'est une nourriture de Dieu, autant que l'Eucharistie, on pourrait dire, et à l'intérieur de l'Eucharistie. Et en même temps, c'est aussi ce qui relativise d'une certaine manière le rôle du prédicateur, puisqu'il s'efface devant Dieu. Et donc c'est d'abord Dieu qui partage le pain de sa parole à ceux qu'il a appelés à venir à la messe. Donc ça, c'est vraiment un souci aussi du cardinal Lustiger dans l'homélie, de montrer au fond, de bien faire sentir ce qu'était l'Eucharistie, pourquoi l'Eucharistie dominicale est la source et le sommet de la vie chrétienne, comme le dit le Concile Vatican II. Donc c'était un élément extrêmement important pour lui. Il s'est découvert comment on avait avec le cardinal Lustiger, au fond, une manière de recevoir le Concile Vatican II sur ce qu'était la mission de l'évêque, de prêcher, et comment cette mission révèle à l'Église, au peuple de Dieu, quelle est sa vocation de recevoir la parole de Dieu pour la transmettre au monde. C'est ça qu'il voulait vraiment surtout leur montrer.
Pour lui, les homélies coopèrent à l'enfantement d'un peuple.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'homélie, c'est ce que dit lui-même Jean-Marie Lustiger, déjà dans l'avant-propos des sermons de la curée de Paris, le peuple reconnaît ce qui se passe dans la messe. C'est pas l'homélie en elle-même qui faudrait pas lui accorder plus d'importance qu'elle n'en a, mais c'est comme un révélateur, c'est comme une médiation. Ça, c'est ce que dit beaucoup le pape François dans la joie de l'évangile. Donc il y a évidemment beaucoup de résonance. L'homélie, elle est une médiation qui va révéler à l'Église quel est le corps du Christ, ce que signifie être le corps du Christ, ce que signifie être un peuple de prophètes chargé de transmettre la parole de Dieu. Donc il y a un peu tout ça qui se joue dans l'homélie comme révélateur, on pourrait dire.
Quel était l'enracinement, sur quoi s'appuyaient ces homélies?
Oui. Alors c'est intéressant parce que je dis d'une phrase qu'elle s'appuie sur la parole de Dieu, mais ça ne veut pas dire que c'est un commentaire littéral ou ce qu'on appellerait exégétique de l'Écriture sainte. Pourtant, c'en est réellement un, je pense, c'est-à-dire que c'est ce que disaient les pères de l'Église et puis surtout les médiévaux au Moyen-Âge. On disait l'homélie, c'est une exégèse prêchée, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cela chez le cardinal Lustiger, mais il tient vraiment, de même dans sa manière de prêcher, à Notre-Dame en particulier, on le voit prêcher debout avec en main l'Évangile, en grec et en français, dans la traduction de Saint Jeanne d'Arc. Et donc c'est aussi pour manifester que c'est vraiment un acte d'interprétation de l'Écriture, montrer comment l'Écriture s'accomplit dans les circonstances de l'histoire, et de l'histoire nationale, de l'histoire du monde, des événements. Alors il y a tous les événements des années 80 aussi qui résonnent dans ses homélies, dans sa prédication, et puis aussi des circonstances de la vie d'une paroisse, de la vie d'un chrétien. Il va montrer comment l'Écriture s'accomplit, et en même temps comment souvent il y a aussi comme une tension, puisque il y a un combat spirituel dans l'histoire, et que cette parole de Dieu, elle est mal comprise, elle demande à être plus travaillée, elle demande une conversion aussi, et donc il appelle à cette conversion. Il le disait lui-même, d'ailleurs l'homélie est une parole de circonstance. Ce n'est pas du tout un terme faible ou négatif de sa part. Au contraire, c'est une parole vraiment dans l'histoire. C'est ça qui est intéressant chez lui, c'est qu'il y a vraiment une manière de lire l'histoire très prophétique, qui reconnaît la manière dont Dieu agit dans l'histoire, et donc qui tient compte évidemment aussi beaucoup des personnes qu'il avait en face de lui, de ce peuple de Dieu dont il se reconnaît vraiment membre, et donc comme disciple, il écoute la parole de Dieu avec le peuple de Dieu, dont il fait partie et qu'il sert. Et donc tout ça, ça fait la source de sa parole.
C'était comme des appels missionnaires, et dans lesquels aussi étaient révélés les enjeux spirituels de l'histoire ou de la civilisation en France et puis dans le monde.
Le fait d'insister et d'inclure dans l'homélie beaucoup d'éléments historiques, beaucoup d'enjeux de la vie de l'Église dans le monde, permet aussi aux chrétiens de comprendre, de recevoir des clés, et puis comme un envoi en mission. Il y a une formule que le cardinal Lustiger disait volontiers, voilà, ce que les prêtres et les évêques sont pour le peuple de Dieu, ben, le peuple de Dieu l'est pour le monde. Et l'homélie révèle quelque chose de ça, il me semble. Et depuis, il y a une dimension de formation aussi, ou d'éveil de la conscience. Alors, dans l'homélie, c'est vrai que c'était peut-être plus sensible dans des circonstances vraiment de commémoration d'événements, ou bien des circonstances à la fois dramatiques ou au contraire joyeuses de la vie de l'Église et du monde. Et comme archevêque de Paris, ça lui donnait aussi l'occasion de rencontrer des responsables politiques, des journalistes, des magistrats, des avocats, toutes ces circonstances-là, dans l'homélie et aussi en dehors de l'homélie, donc j'ai essayé de mettre ça en regard, ce qui manifeste aussi quelque chose de cette dimension missionnaire de l'homélie qui n'est pas seulement un acte rituel dans la messe. Bien sûr, c'est un acte rituel, mais à l'intérieur de cet acte rituel, en fait, il y a un côté foisonnant et très débordant, mais surtout qui permet d'avoir une parole très libre et du coup aussi très missionnaire. Oui.
C'était quoi ces intuitions? Quels étaient les terrains de mission sur lesquels il éveillait les fidèles?
Il les éveillait à être à la fois pleinement enracinés dans la parole de Dieu, c'est-à-dire à lire l'Évangile. Il insistait beaucoup pour qu'il y ait vraiment cette appropriation personnelle, cette entrée personnelle et communautaire dans la parole de Dieu, pour que l'Église ne se reconnaisse pas comme simplement une institution humaine, etc. Dans les années 80, c'était très important d'insister là-dessus. Il y a vraiment toute une théologie de l'Église qui se reçoit de Dieu. Donc c'est ça, d'abord, ce à quoi il veut les éveiller. Et en étant pleinement enraciné dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, eh bien, de pouvoir aussi discerner les enjeux dans la société, dans le monde, à la fois pour y reconnaître les semences de Dieu, pour pouvoir dialoguer, c'est un point évidemment très important pour lui, avec la société, et puis aussi pour pouvoir dénoncer au sens où critiquer aussi ce qui peut être idolâtrie, qui sont des chemins d'athéisme, des chemins de mort. Sur l'athéisme, il montrait toujours que c'était d'abord une épreuve des croyants eux-mêmes, au fond. Il les invitait à reconnaître que si je reconnais l'athéisme dans le monde qui m'entoure, en fait, c'est que d'abord cet athéisme, il me traverse et que je le vis comme un combat spirituel. En fait, son point, c'est toujours de montrer que le combat spirituel était autant vécu dans la société que dans chacun des croyants. Et donc c'est en ça qu'il éveillait leur conscience, et que la seule manière de le vivre et de le traverser, c'était d'être pleinement plongé dans la parole de Dieu et dans la vie qu'on reçoit de Dieu.
Puisque vous parlez justement des non-croyants, on dit aussi que ces homélies étaient adressées à tous, c'est-à-dire pas juste à ses fidèles.
Mais c'est vrai, il en parle dès l'avant-propos des sermons d'un curé de Paris. Il dit « J'avais toujours conscience que dans une assemblée dominicale, il y a toujours des gens très différents ». Et puis alors, il prend aussi des exemples, évidemment, pour des baptêmes, pour des mariages, pour des enterrements. Et à Notre-Dame, évidemment, il en avait encore aussi une conscience plus vive de dire, où viennent à Notre-Dame des gens qui ne sont pas forcément croyants. Et donc, il savait qu'il voulait s'adresser à tout homme. Mais comme le Christ le fait, à l'intérieur, au fond, de ce que le Christ fait, en parlant et en donnant sa vie pour tout homme, et puis aussi, assez vite, avec de Notre-Dame, et puis avec Cathéo, etc., avec aussi simplement le fait que ce qui était dit pouvait être redit par d'autres, il savait aussi qu'il s'adressait non seulement à ceux qui étaient là, qui pouvaient être croyants ou non, mais aussi à ceux qui n'étaient pas là. Et donc l'enjeu, c'était pas simplement de conforter un petit cercle de chrétiens, mais aussi vraiment de désigner le mystère même de l'homme, en fait, et de révéler dans la lumière de Dieu, au fond, la dignité de la personne humaine, sa vocation et son combat spirituel aussi, et le chemin de sa vie dans l'histoire.
Des propos recueillis par Marie Duhamel.